Vous allez bien? Faut que je pose mon trousseau de clés parce qu'il est trop gros. Vendredi soir, je vous parlais de ce que la Bible dit des animaux. Vous vous rappelez? Disons qu'ils savent discerner le temps et les saisons. Et je vous montrais aussi que Dieu reproche à son peuple de ne pas discerner dans quel temps il vit. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion. Et la Bible est écrite de façon à ce que ceux qui veulent douter puissent douter encore, et que ceux qui veulent mélanger, mélangent aussi. C'est écrit de cette manière-là, parce que ça doit être par le Saint-Esprit qu'elle doit être comprise. Alors, vous trouvez des choses qui sont bizarres, qui peuvent paraître contradictoires dedans. En général, c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, là, il est question de discerner dans quel temps nous sommes. Alors là, il y a aussi déjà une confusion. Vous avez des gens qui confondent le discernement des esprits, par exemple le discernement des esprits qu'on trouve dans 1 Corinthiens, je crois, 12. Eh bien, c'est un don surnaturel. C'est un don surnaturel en général. Ce sont les pasteurs qui reçoivent ce don parce que ça leur permet de discerner quels sont les esprits des gens qui agitent les gens, qui inspirent les gens qui sont dans l'église, par quel esprit ils sont animés, ou alors même des gens du dehors, ils peuvent discerner, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. C'est un don qui est fait en général aux pasteurs. Je dis bien en général parce qu'il peut y avoir aussi des chrétiens qui le reçoivent. Ça, c'est rare, mais c'est possible que ça arrive. Le problème, c'est que la plupart des jugeurs patentés, des critiqueurs et des calomniateurs sont certains qu'ils possèdent et qu'ils exercent le don de discernement des esprits. J'ai discerné, n'est-ce pas? Alors là, et ça cause des problèmes dans l'Église parce que ce don de discernement des esprits que l'Esprit de Dieu manifeste, ça n'a rien à voir avec ces histoires de cancanage et de machin. Faut pas confondre donc le don de discernement des esprits, qui est un don surnaturel, avec le discernement qui est simplement le fruit de la sagesse. Le fruit de la sagesse. Le fruit de celui ou de celle qui est sage. Le fruit que porte une vierge sage. Les sages, ils aiguisent leur capacité à discerner toutes sortes de choses, et en particulier les temps dans lesquels nous vivons. Là, par exemple, j'ai une bonne nouvelle à vous donner, c'est un scoop pour ceux qui ne savent pas encore, dans la communauté ils savent tous, mais pour ceux qui écoutent sur Internet et qui regardent la télé, nous aurons le 18 et 19 octobre la venue de notre frère Pierre Gilbert. Alléluia. Et il a parlé avec Arthur à l'amant et il a dit: je veux terminer mon ministère d'enseignant, d'escatologue, mais je veux le terminer en beauté, et je veux le terminer chez Janton et sa communauté. Amen. C'est un waouh, c'est un honneur pour nous, parce que c'est un homme qui est mondialement connu, et c'est nous qui l'avons choisi pour terminer son ministère. Mais ça, je trouve que c'est vraiment pour moi, ça, c'est une grande joie pour moi, une consolation pour moi. Maintenant, donc, les sages aiguisent, n'est-ce pas, leur capacité pour discerner les temps dans lesquels nous vivons. Et maintenant, cette capacité, elle est donnée à ceux qui cherchent la sagesse. À ceux qui cherchent la sagesse, la Bible dit avec autant d'avidité qu'un homme d'affaires cherche le pognon. Quand vous chercherez la sagesse avec autant d'avidité et que vous mettrez tout votre cœur et votre énergie, et tout, comme quand vous allez chercher votre argent, eh ben alors là, mon vieux, vous allez recevoir la sagesse. Mais pas avant. Vous vous rappelez de cette histoire de l'homme qui disait, mais il rencontre un vieux sage, il lui dit, comment faut faire pour avoir la sagesse? Alors le vieux sage l'emmène au bord d'une rivière, il lui plonge la tête dans l'eau. Et le jeune homme se débat parce qu'il commence à étouffer. Et au bout d'un moment, le vieux lui relève la tête. Et le jeune dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez voulu me tuer? Il dit, non, j'ai voulu te montrer que quand tu chercheras la sagesse avec autant de force que tu cherchais de l'air pour respirer, pour vivre, alors tu trouveras la sagesse, c'est tout. Et le jeune homme a compris. Eh bien, c'est la même chose si on ne cherche pas. Oh, vous lisez la Bible 10 minutes, ou vous lisez juste le feuillet, n'est-ce pas, du calendrier. D'ailleurs, il était très bien le calendrier aujourd'hui encore. Moi, je lis hein, le calendrier que Rachel nous donne chaque année. C'est précieux, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est juste une mise en bouche, ça. Hein, c'est juste une mise en bouche. Il faut aller plus loin. Il faut chercher cette capacité de discerner. Elle est offerte à ceux qui poursuivent la sagesse comme ceux qui cherchent un trésor. Ça, c'est dans Proverbe 2:7. Voyez où vous en êtes? Hein? Est-ce que vous en êtes à chercher la sagesse comme ça, ou est-ce que vous attendez qu'elle vous tombe dessus, qu'il y ait une idée, quelqu'un qui vous donne une idée pour vous en sortir? Non. Cette sagesse, elle vaut plus que l'argent, elle vaut plus que tous les trésors, nous dit la Bible. Cette sagesse, c'est un trésor. Et ce trésor, il est caché en Christ. Il est caché en Christ. Alors, oui, tous les enfants de Dieu peuvent accéder à cette sagesse, à ce discernement. Absolument tous. Tous ne peuvent pas recevoir le don de discernement des esprits, c'est un don spécial pour l'édification de l'Église, c'est quelque chose de spécial, ça fait partie des 9 dons et Dieu les distribue à chacun comme il veut. Par contre, celle-là de sagesse, ce discernement-là, c'est pour tous, c'est pour tous ceux qui cherchent, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, parce qu'ils ne cherchent pas, c'est tout, c'est la seule raison. Parce que tous ceux qui sont en Christ ont tout pleinement en Jésus-Christ, n'est-ce pas écrit ? Tous ceux qui sont en Christ ont tout pleinement en Jésus-Christ. On peut tout avoir, mais pas forcément utiliser ce qu'on a. C'est ça le problème. J'ai tout en Jésus-Christ, mais voilà, je rentre jamais dans la salle du trésor, je me mets jamais à genoux pour prier, je ne lis jamais la parole de Dieu, je me contente d'écouter les prédications de Francis, de Michel ou des autres frères, et puis voilà, basta, ça suffit. De toute façon, moi j'ai tellement de choses à faire, hein. Je peux pas, j'ai pas le temps. On trouve toujours des excuses pour dire qu'on n'a pas le temps de chercher. Mais mes frères et sœurs, c'est ça l'essence de votre vie. Si seulement vous vous occupez des choses du royaume de Dieu et de sa justice, mais toutes les autres choses que vous vous battez avec énergie, les choses, vous donnez une force, une puissance, une importance à toutes ces autres choses, elles vous seront données par-dessus, la Bible nous dit. N'est-ce pas vrai? Alors, quel est votre discernement? Quelle est votre sagesse? Hein, il faut remettre les choses à leur place. Vous voyez, dans la sagesse, il y a donc du discernement. Et c'est ainsi qu'avec cette sagesse, dans laquelle se trouve ce discernement, eh bien, nous pouvons faire la part des choses entre ce qui nous est profitable pour nous, qui est profitable pour nous, qui est profitable pour les autres, qui est profitable pour la gloire de Dieu, et ce qui ne vaut rien aux yeux de Dieu. Il y a des tas de choses qui ne valent rien aux yeux de Dieu. Alors, c'est plus même la question du bien et du mal, c'est la question de ce qui est profitable ou pas. Tous les chrétiens ont besoin de ce discernement. Tous ont besoin de ce discernement. Ce discernement, c'est pas, je le répète, un don surnaturel. Comme le don du discernement des esprits qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12:10. Ça n'est pas ça. C'est une capacité qu'on doit rechercher pour pouvoir la trouver et en bénéficier. Ce discernement nous permet d'entrer dans un trésor caché. Il est caché en Christ, il est caché pour que tout le monde ne le trouve pas. Pour que seuls ceux qui sont en Christ et qui cherchent trouvent. Parce que vous pouvez être en Christ et ne rien chercher, disant voilà, je suis en Christ, maintenant ça suffit comme ça. Non, ça suffit pas comme ça. Là se trouvent toutes les vraies valeurs. Elles sont dans l'ordre chronologique d'importance. Vous avez en Christ, dans ce trésor caché, tout ce qui concerne la sainteté, tout ce qui concerne les valeurs de la famille, tout ce qui concerne les valeurs de l'Église, tout ce qui concerne les valeurs de votre santé morale, spirituelle, financière, de la connaissance et même de la révélation. Même de la révélation. Dans Proverbe 29:18, il est dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Sans frein. Monteriez-vous dans une voiture qui n'a pas de frein? L'autre jour, avec Michou et les enfants, on a fait un col là-bas en Suisse. Ben, mes enfants, heureusement qu'on avait un frein, hein. Si on n'a pas de frein, eh ben, on serait mort. Monteriez-vous dans une voiture qui n'a pas de frein? Non, jamais. Eh bien, si la révélation, si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de frein. C'est-à-dire, vous allez très vite, oui. Mais vous n'avez pas de frein. C'est très grave. C'est très dangereux. Alors le sage continue en disant, heureux si le peuple observe la loi. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ne pas observer la loi, c'est un danger. C'est un danger pour soi, mais c'est aussi un danger pour les autres. Une personne qui roule dans une voiture sans frein, il ne peut pas, c'est pas qu'il veut pas, mais il peut pas s'arrêter, il peut pas observer la loi, par exemple, du feu rouge ou du feu vert. Il ne peut pas. Il voudrait bien, mais il peut point. Il ne peut pas. Et alors, il met sa vie en danger, et puis aussi la vie des autres. Parce que les autres pensent que voilà, vous avez un frein, vous allez vous arrêtez pas, ben bam! Et alors, vous mettez en vie, en danger aussi la vie des autres. C'est pourquoi Osée disait, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez, mes frères et sœurs, la connaissance est essentielle dans toute notre vie. Pas seulement pour dire je connais, mais parce que ça se pratique. C'est essentiel dans toute notre vie. Si vous lisez Tite 1.1, vous lirez que Paul se savait élu de Dieu. Il avait été choisi pour être apôtre pour deux choses principales. Il le dit, c'est d'abord pour la foi des élus, parce qu'il a porté la foi aux élus, et deuxièmement pour la connaissance de la vérité. La foi et la connaissance, c'est primordial à tous les niveaux de votre vie sur le chemin dans lequel vous vous êtes engagé. La foi et la connaissance. Et cette foi et cette connaissance, il le dit, ça s'obtient par la piété. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la piété? Il n'y a aucun dictionnaire qui est d'accord avec ça. Mais nous savons, nous, parce que nous la vivons, ce que c'est que la piété. Cette foi et cette connaissance nous vient de notre amour passionné pour la parole de Dieu. Hein? Psaume 1, verset 2 nous dit « Heureux l'homme qui trouve son... » La femme aussi, hein. « Heureux l'homme et la femme qui trouve son plaisir dans la loi, dans les ordonnances de l'Éternel et qui médite cela jour et nuit. » Une telle personne va donner du fruit en sa saison. C'est-à-dire quoi? Cette personne-là qui va trouver son plaisir, un plaisir dans la parole de Dieu, dans les lois, les ordonnances, les promesses et toutes ces choses de Dieu, il va avoir un résultat, un fruit dans sa vie de tous les jours, dans le temporel, pas seulement dans le spirituel. Pas seulement dans le spirituel, mais des résultats visibles, parce que Dieu va s'occuper de ses affaires. Comment le jeune homme maintenant, comment le jeune homme ou la jeune fille hein, rendra-t-elle ou rendra-t-il pur son sentier? C'est important d'avoir un sentier qui est pur. Si tu n'as pas un sentier pur, ça veut dire que tu as un sentier qui est plein de ronces, qui est plein de pierres, qui est plein de toutes sortes de trucs glissants, de trous et de machins. Donc tu risques comme on dit en Suisse, de t'en coubler. Hein, c'est pas tellement français, c'est suisse, c'est du vieux français. Tu risques de trébucher, tu risques de te casser une jambe, tu risques de te fouler une cheville. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la bonne parole de Dieu. Psaume 119, verset 9. La sagesse, la connaissance, le discernement, la foi et la connaissance, ça ne vient que à ceux qui se réjouissent des paroles de Dieu et qui trouvent dans les paroles de Dieu plus qu'un grand butin. Ça, c'est Psaume 119, 162. Un butin, vous voyez, qui fait toujours le rapport entre l'argent et la connaissance. La connaissance, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde va travailler, pas parce qu'il faut travailler, hein. Coluche disait, moi, je vais aller manifester, non pas pour avoir du boulot, mais juste l'argent, ça nous suffit, hein. Il disait, c'est vrai, c'est comme ça, les gens. C'est vrai qu'il y en a qui aiment leur travail. Mais quand même, ce qu'on veut, c'est la paye à la fin du mois. Donc, tout ce qu'on fait 8 heures par jour, c'est pour l'argent. Eh bien, la Bible dit la sagesse, c'est encore plus important, c'est plus grand, c'est plus valable que l'argent, la sagesse. Alors, mes frères et sœurs, voulez-vous entrer dans la salle du trésor caché en Christ? Tout le monde va dire oui. Tout le monde leur dit oui, c'est sûr. Et malheureusement, il y a trop peu de gens qui y entrent. Et c'est parce qu'il y a trop peu de gens qui rentrent qu'il y a tant de confusion dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine temporel. Vous voyez, je vais souvent en Afrique, et en Afrique c'est encore plus flagrant. Vous avez des gens qui prêchent l'abondance, qui hurlent en disant « Dieu, tu es le Dieu de l'abondance, alléluia, je vais recevoir au centuple, alléluia », et puis encore des tas de phrases comme ça, et ils ressortent, ils ont rien. C'est le Dieu de l'abondance qu'ils servent, ils ont rien. C'est une confusion, c'est quelque chose qui va pas. Ils confessent pourtant la vérité, mais qu'est-ce qu'il y a qui fait que ça ne va pas? Parce qu'il manque de sagesse, il manque de connaissance. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors, il faut arrêter avec cette histoire-là et se remettre, comme disait Alain tout à l'heure, il faut aller sur nos genoux puis, pour avoir des résultats spirituels, mais aussi temporels, c'est-à-dire dans la réalité bien matérielle de notre vie. Ils périront, dit la Bible, par faute de connaissance, parce qu'ils grilleront tous les feux rouges. Ils ne peuvent pas obéir à la loi. Ils ne peuvent pas, il n'y a pas de frein. Un exemple, on va lire Apocalypse 22, 17. Apocalypse 22, 17. C'est un exemple que je vais vous montrer pour vous faire voir comment il peut y avoir de la confusion. L'Esprit, donc le Saint-Esprit et l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen, c'est vrai. Je vais vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça signifie? Tous les chrétiens se réjouissent que Jésus vienne. Tous les chrétiens se réjouissent de la venue de Jésus, du jour de Jésus, quand il viendra sur les nuées du ciel et qu'il va nous emporter. Vous vous réjouissez de cela? Est-ce que vous désirez ce jour? Dites « Je désire ce jour ». Dites-le avec force, je désire ce jour. Amen. Alors, c'est merveilleux. Maintenant, on va lire Amos 5, 18. Amos 5, 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Oh! Oh! Ah, dirait Louis de Funès, qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Ça semble contradictoire, n'est-ce pas? Eh bien non, ça n'est pas contradictoire, mais encore faut-il avoir de la connaissance. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de la colère de Dieu contre les nations. Et ce jour-là sera horrible. On ne peut pas se réjouir de ce jour-là. Moi, ce n'est pas de ce jour-là dont je me réjouis. Alors, que le jour de Jésus-Christ, le jour où il reviendra pour chercher son épouse, ça sera le jour le plus merveilleux de ma vie et de la vie de tous les chrétiens qui attendent et qui aiment son avènement. Amen. Alors, en ce moment, nous sommes dans un temps qui est de la plus haute importance et le diable s'amuse à répandre des faux enseignements afin que le peuple de Dieu et des nations aussi ne sachent plus où il en est. Par exemple, le monde entier a entendu parler du 12 ou du 21, je sais plus quoi, en 2012, là, décembre 2012, la fin du monde. Vous vous rappelez de ça, hein? Ils en ont fait des histoires, ils en ont fait des films, ils en ont fait des livres. Et ça s'est bien vendu, puis maintenant, ben voilà, tout est ridiculisé. Et on est encore là, il n'y a pas eu la fin du monde en 2012. Maintenant, si vous parlez aux gens du monde au sujet des prophéties, des choses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui et qui vont arriver bientôt, ils n'y croient plus. Les païens, comme les chrétiens, je suis désolé de lire, mais les chrétiens commencent à douter. Ils sont pleins de doutes et de confusion au sujet de ce qui va se produire, parce qu'ils disent, on a déjà été tellement déçus, avec ce qui se passe en ce moment, mes frères et sœurs, en Israël, à Gaza et toutes ces choses, ils sont troublés même au sujet d'Israël, le peuple de Dieu, et de plus en plus, on voit des chrétiens qui deviennent anti-juifs. C'est incroyable! On m'aurait dit ça il y a encore 10 ans, j'aurais eu de la peine à le croire. Eh bien oui, on en est là à cause de la confusion, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et où est cette vérité? Eh bien, elle se trouve en Christ. Et il ne suffit pas d'être en Christ, encore faut-il la chercher, comme je vous l'ai dit. La Bible est écrite de façon à ce que ceux qui doivent douter, doutent. Hein, là, par exemple, ah, on désire le retour de Jésus, on désire le jour de Christ, mais il ne faut pas désirer le jour de l'Éternel. Oh, bah alors là, on ne comprend plus. Mais si, on peut comprendre. La Bible ne se suffit pas à elle-même, encore faut-il des serviteurs de Dieu, des prophètes, pour mettre la lumière dessus. Par exemple, Apocalypse 22 Et Amos 5, 18 sont des textes formidables, mais c'est quand même terrible. Est-ce qu'on doit aspirer ou pas? Est-ce qu'on doit désirer ou pas? Ça, c'est juste un exemple. Vous avez des tas d'autres exemples comme ça dans la Bible. Apocalypse 22 ne nous parle pas du même jour que Amos 5, 18. Écoutez bien ça. Il y a une trompette qui doit sonner. 1 Corinthiens 15, 50, 52. Tâchez de le trouver. 1 Corinthiens 15. Voilà. Alors, voilà ce qui est dit. Ce que je dis, frère, c'est que la chair... Ah non, c'est pas ça. Voici, je vous le dis, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous... Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Bon, alors ça c'est un texte, c'est merveilleux, c'est très bien, et c'est la même trompette qu'on trouve dans 1 Thessaloniciens 4, 16, où il est dit... Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ça sera l'enlèvement. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, mais maintenant il y a un mot que vous avez sauté. Vous dites oui, mais c'est pas si simple. Si la trompette d'un Corinthiens 15 est appelée la dernière trompette, c'est qu'il y en a d'autres qui sonnent avant. Lesquelles? Les sept trompettes d'Apocalypse? Non. Lesquelles? En fait, la révélation, elle se trouve dans la Bible elle-même. Mais encore faut-il entrer dans la salle du trésor pour les trouver, ces révélations. Nombre, chapitre 10. Nombre 10. Ah, ben je ne l'ai pas noté celui-là. Nombre 10. Versets 1 à 7. C'est un long passage. Mais il vaut son pesant d'or. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux du camp du midi partiront, on sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Vous voyez, en fait, il y a deux trompettes. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15 nous dit la dernière. Parce qu'il y en a une autre avant. La première, c'est pour la convocation de l'assemblée. Et la deuxième, la dernière, c'est pour le départ. Et ces deux trompettes, elles sont en argent parce que elles sont des trompettes de Dieu, des trompettes consacrées. On va lire Exode 30, 11. Exode 30, 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne. » afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors du dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus payera son don, payera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus que le pauvre, le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne, c'est-à-dire leur âme. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation et ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur âme, de leur personne. Alors, pourquoi tout ça? Chaque personne du peuple de Dieu, depuis qu'il avait 20 ans, devait donner un demi-cycle d'argent comme rançon, comme rachat pour son âme dans l'ancienne alliance. Cette rançon, 1, on vient de le lire. Préserver chaque Israélite de la plaie du jugement. C'est un jugement qui va tomber. Et deuxièmement, l'argent servait pour la construction de la tente d'assignation. Par exemple, il est dit dans Exode 26, 19 que le tabernacle était posé sur un socle d'argent. Il fallait bien qu'il vienne de quelque part. Hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'argent symbolise le prix que Christ, que Jésus a dû payer pour nous racheter. C'est plus nous qui nous rachetons, c'est Jésus qui nous a rachetés. Le prix que Jésus a payé à notre place, c'est le fondement du temple que nous sommes, chacun pour nous-mêmes. Maintenant, revenons aux trompettes d'argent, parce que ce n'était pas seulement pour le socle, c'était pour tout ce qu'il y avait dans le temple. Ceux qui entendent la trompette sont ceux qui ont été rachetés. Les autres ne savent même pas qu'il y a une trompette qui a sonné. Ceux qui entendent la trompette sont ceux qui ont été rachetés pour la convocation de l'assemblée. Elle a sonné sans éclat, c'est-à-dire elle a sonné toute seule. C'est la trompette qu'on peut assimiler au signal donné. Vous connaissez qui c'est le signal donné? C'est notre frère le prophète William Branham. Un petit homme tout simple qui a sonné de sa trompette, une petite trompette méprisée par le monde entier, par le monde évangélique en tout cas. On peut aussi l'assimiler à ce qui suit, n'est-ce pas, le signal donné, c'est-à-dire la voix de l'archange. Et la voix de l'archange, c'est la voix de Matthieu 25, 6, la voix qui appelle à s'assembler, à vivre ensemble, comme à Jérusalem, parce que l'époux vient et il y a un temps où il faut s'unir pour se préparer, pour tenir en ordre notre réserve, pour être absolument réveillé et ensemble, pour comparer, oui, t'as tout ce qu'il faut, c'est bien. Et puis, il y a une autre sonnerie qui arrive, la dernière, on sonne avec éclat, là c'est les deux trompettes qui sonnent. Vous trouvez ça dans d'autres versions. C'est les deux trompettes qui sonnent pour le départ. C'est la trompette de Dieu qui sonne pour l'enlèvement. Mais ceux qui n'ont pas entendu la première n'entendront pas la deuxième. Et ceux qui n'auront pas obéi pour s'assembler n'entendront pas la deuxième. Ils entendront la doctrine. Mais ils n'entendront pas elle. Mais le son de la trompette sans éclat qui nous a rassemblés est celle de la trompette qui sonnera avec éclat pour l'enlèvement. Elles n'ont rien à voir avec les sept trompettes d'Apocalypse. Il ne faut pas tout mélanger. Et malheureusement, dans les églises, on mélange. Attendez. On mélange quand on s'en occupe encore, parce qu'il y en a qui ne s'en occupent pas du tout de l'Apocalypse. Ils disent, non, on n'y comprend rien, c'est dangereux, on risque de se tromper. Mes frères et sœurs, la première trompette est là, sonnée, sans éclat. Le peuple est appelé à s'assembler. Et nous ne sommes pas les seuls à nous être assemblés. Il y a d'autres chrétiens qui s'assemblent. Ils s'assemblent plus ou moins conformément à la parole, mais ils s'assemblent avec ce que Dieu leur a donné, avec ce qu'ils ont reçu. Et soyons heureux pour lui. Et surtout, nous-mêmes veillons à ce que cette voix de l'archange qui rassemble, qui unit, soit toujours entendue et que nous soyons cette trompette d'argent. Que nous soyons cette voix de l'archange qui rassemble, qui unit, pas qui désassemble et qui désunit autour de la parole pour une vie de louange, comme nous parlait tout à l'heure Alain en disant que, ben voilà, hein, c'était David, quand il louait Dieu, ben tout le monde l'entendait, hein, c'était pas
« Seigneur, je te loue, comment ne pas te louer, t'adorer ?»
Pour une vie de louange, pour une vie de combat avec foi. Quand on dit combat, ça veut dire qu'il y a épreuve, comme nous disait notre frère Francis tout à l'heure. On est dans les épreuves, c'est exprès. Dieu a fait exprès. C'est lui qui nous a mis dans l'épreuve. C'est lui qui vous a mis dans l'épreuve pour que vous vous en sortiez pour la gloire de Dieu. Ma femme m'a donné un verset, elle m'a dit, tiens, c'est de la part du Seigneur, c'est dans Deutéronome 8, 1. C'est pour moi, mais je vous le donne. Hein, c'est ça. 1 à 6, c'est ça. Vous voyez, le discernement des temps dans lesquels nous vivons, il est nécessaire. Cette sagesse cachée en Christ, qui est la parole, elle est nécessaire. Alors veillons à être ce que nous sommes appelés à être Déjà, nous avons entendu la première sonnerie, nous sommes déjà réveillés pour nous assembler. Cette première trompette d'argent qui attire l'attention pour le rassemblement, elle sonne très peu de temps avant la deuxième trompette, celle qui va sonner bientôt pour le départ, c'est-à-dire pour on sera enlevé. Tout d'un coup, les gens de la Ferté-Vidame, de Lemblor, ils verront le courrier s'amonceler dans la boîte aux lettres et diront « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe là-bas dedans ? On ne les voit plus. Il y en a un qui rentrera, ce sera peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui a une autorité, hein, qui rentrera là-dedans pour voir et on ne sera plus là. Ils trouveront nos habits sur les chaises, peut-être ça sera pendant le repas, on aura été enlevé, alors nos habits seront sur les chaises. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ils ont mis leurs habits comme ça sur leurs chaises ? Et, hein, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Nous aurons été enlevés ! Nous aurons disparu en un instant, en un clin d'œil. C'est ce que nous attendons, mes frères et sœurs, ce qui se passe là-bas en Israël et Gaza, tout ça. C'est le résultat de ce qui est annoncé. La lune deviendra rouge comme du sang et le soleil perdra de sa clarté. Nous sommes en ce moment même, les gens ne savent même pas, mais c'est en train de se passer ça. On dit, ah bon ? Mais oui, ça s'appelle dans le domaine spirituel la tétrade. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Il y en a eu plusieurs. C'est la huitième en ce moment. Elle va finir le 28 septembre 2015. Chaque fois que la lune devient sang, c'est un problème pour Israël. Et c'est chaque fois à Pâques et à Sukkot que ça arrive. Mais quand le soleil perd de sa clarté, c'est-à-dire quand il y a une éclipse de soleil, alors là, c'est les problèmes pour les nations, c'est-à-dire Israël et les nations. Et ça, l'année prochaine, il y a tout ça. Il y a tout à la fois l'année prochaine. Cette année, on a eu déjà une lune de sang, on va en avoir encore une en octobre. C'est les prémices, et vous voyez ce que ça déclenche. À chaque fois, ça déclenche des choses terribles. Il y en a eu une en 67-68, c'est là que ça a déclenché la guerre des six jours. Il y en a eu... Je vous donnerai les papiers de tout ça. C'est important. Cherchez sur Internet. Vous trouverez sur Internet toutes ces choses au sujet des tétrades. Alors, cessez de regarder votre vie comme si elle avait une valeur. L'apôtre Paul dit, je ne regarde pas ma vie comme si elle avait une valeur extraordinaire. Non, il l'a donnée à Christ. Il l'a donné à Jésus-Christ. Il l'a donné à l'Église. Abandonnez vos droits pour accomplir la volonté de Dieu. Oui, mais j'ai quand même... Non ! Abandonne tout ça pour faire la volonté de Dieu. Parce que sans cela, vous allez brûler votre huile pour des futilités. Et au jour de la trompette d'argent qui sonnera avec éclat, vous n'aurez plus d'huile, même si vous vous êtes rassemblés. Vous vous faites des soucis pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Est-ce que vous vous rappelez des soucis que vous aviez il y a 4 ans ? Non, on se rappelle même plus. Et pourtant, quels soucis c'était ? Eh bien, pour aujourd'hui, vos soucis, c'est la même chose. Dans 2 ans, vous les aurez oubliés. Ce sera d'autres soucis qui viendront à la place si Jésus est parvenu. Ne vous faites pas du souci pour le lendemain. Aimez, pardonnez, soyez paisibles. Soyez gentils, avertissez ceux qui brûlent leurs mèches, parlez debout, inconsidérément, n'importe comment, pour faire la lumière, n'est-ce pas ? Ah, pour tout mettre en lumière ! Ah oui, c'est bien. Alors on allume la lampe pour mettre en lumière. Regarde là, là, il y a du chenille. Là, c'est pas bien. Axtu, pas glope. Et alors, c'est pas le discernement des esprits, ça. C'est du cancanage et on se sert de l'huile sainte pour ça. Arrêtez, mettez pas votre lumière, ne brûlez pas votre lumière pour faire ça. Et avertissez ceux qui brûlent leur huile inconsidérément pour mettre la lumière sur des choses qui n'ont pas de valeur, qui n'en valent pas la peine. Priez plutôt que Dieu bénisse toutes ces choses et permette qu'elles s'arrangent et gardez précieusement votre trésor d'huile, en étant bien sûr que vous avez vraiment la réserve pour le jour où la trompette sonnera. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce message. Je crois qu'il était clair. Bénis mes frères et sœurs. Permets que chacun se ressaisisse et garde sa lumière, garde son huile, garde sa lampe et veille à ce que les autres veillent aussi. Mais Seigneur Jésus, aide-nous à le faire avec amour et gentillesse. Merci mon Dieu. Sois béni mon Seigneur pour ceux qui écoutent cela. Permets qu'ils comprennent qu'il y a de l'ordre dans les choses qui te concernent, que tu ne fais pas les choses à moitié, que tu ne fais pas les choses n'importe comment, qu'il y a une première et une deuxième trompette, une première et une deuxième trompette. Merci Seigneur Jésus de nous avoir dit ces choses. Amen. Amen.